Bonjour, ici Eugénie Francoeur, coach en santé globale, ex-journaliste et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit à la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Mieux vivre aussi avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite la bienvenue sur le balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers ces balados, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse vous inspirer, vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que mon enthousiasme et ma croyance se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». Merci d'être là, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec une femme inspirante, la docteure Anne-Isabelle Dionne, fondatrice et directrice médicale du Centre Axis. J'ai le privilège de faire partie de sa belle équipe à titre de coach santé. Le Centre Axis n'est pas une clinique médicale. C'est un lieu avant-gardiste de santé intégrative qui inclut la médecine fonctionnelle. Dr Dionne est diplômée depuis 2012 de l'Université Laval et pratique la médecine familiale à Montérégie depuis 2014. Elle a développé un intérêt particulier en médecine fonctionnelle, en prévention des maladies chroniques et en promotion d'un mode de vie sain. Je vais la laisser nous expliquer ce qu'est la médecine fonctionnelle. De nature curieuse, elle s'interroge sur les comportements qui mènent à l'apparition des maladies. Les propos du Dr Dionne sont remplis d'espoir. Elle nous explique que le renversement des maladies chroniques, ça existe, que ça s'installe au fil du temps, mais que ça peut aussi se désinstaller et que c'est souvent pas mal plus simple qu'on le pense. Elle nous invite à reprendre le pouvoir sur notre santé, notre bien-être, à nous responsabiliser en adoptant un mode de vie sain. 90 % des facteurs de risque qui mènent à un problème grave de santé auraient pu être évités. Oui, 90 %. Dr Dionne nous parle aussi d'épigénétique, des racines des problèmes de santé, du microbiote, de calories et de bien d'autres sujets. Alors que nos hôpitaux et CHSLD débordent et croulent sous le poids des maladies chroniques, elle nous montre comment se faire le plus beau des cadeaux, celui de la santé. Après avoir écouté cette entrevue, vous aurez juste envie de faire le premier pas, de bouger et de choisir ce qui vous fait du bien. Bonne écoute! Bonjour Anne-Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Eugénie, et ça me fait vraiment un immense plaisir.
Là, on te reçoit aujourd'hui pour plein de raisons, j'ai plein de questions à te poser. Donc, j'aimerais ça qu'on parle de médecine fonctionnelle ensemble. Bien sûr. T'as créé, tu es derrière la création du premier centre de médecine fonctionnelle au Québec, le Centre Axis, on va y revenir. Avant ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à la médecine, puis ensuite à la médecine fonctionnelle?
Ah, mon Dieu, moi, je suis bénie de la vie. J'ai le privilège d'avoir une très bonne santé, une magnifique famille. J'ai eu le privilège d'avoir une belle éducation, d'avoir accès au niveau académique universitaire très facilement, ce qui n'est pas toujours la réalité de d'autres personnes. Alors, pour moi, c'est comme un donné au suivant. Je l'ai eu facile pour cette période-là, et c'est à mon tour d'aider mon prochain ou d'aider mes patients, mes clients à aller vers ou faire des choix qui vont être plus sains pour leur santé et aller vers un état de bien-être global qui va les aider. Okay. Alors, je me suis évidemment intéressée à la médecine parce que pour moi, c'était fondamentalement important dès mon jeune âge, des choix que je faisais en lien avec l'alimentation ou des choix que je faisais en lien avec des comportements d'activité physique.
Sensibilisée à
déjà,
ça.
Exactement. Tu sais, comme je le dis tantôt, j'ai vraiment un privilège d'être née dans une famille où ça a toujours été important pour mes parents de nous inculquer ces valeurs-là, de bouger, de faire des choix sains en termes d'alimentation, de trouver des périodes de ressourcement personnel pour se poser, favoriser un sommeil de qualité, entretenir des relations saines, communiquer avec l'autre pour s'assurer d'assainir ces relations-là, puis de faire preuve de transparence, puis de bien véhiculer ou bien ventiler les émotions qui pourraient nous submerger des fois, puis qui nous paralysent dans certaines situations. Donc, pour moi, c'était naturel de vivre dans cet environnement-là, et j'ai donc eu un intérêt naturel vers le domaine de la médecine dans le but d'aider les gens que j'allais côtoyer à mettre ça en place dans leur vie. Alors, bon, là, évidemment, la réalité, c'est tout autre hein, quand on devient médecin.
Oui, non, tout à fait.
Parce que le désir qui nous amène vers la médecine, c'est bien beau, mais tu sais, bon, une fois qu'on fait nos études médicales, bien sûr, c'est des études extraordinaires, là, où on apprend énormément de choses, où on devient très cultivé par rapport à la biologie,
la physiologie. C'est aussi dur qu'on le pense.
Bien, c'est très subjectif comme question, parce que quelqu'un qui a du plaisir, qui baigne dans la matière, puis qui boit les paroles des professeurs ou qui a beaucoup de plaisir à lire des notes de cours qui concernent différents éléments de la physiologie, bien, ça coule, ça va bien, c'est facile. Alors que pour d'autres personnes qui vont peut-être à reculons ou qui n'ont pas nécessairement choisi ce domaine-là, puis qui vont parce qu'ils ont juste des bonnes notes, peut-être ça peut être plus difficile. Alors, moi, j'ai eu de la facilité dans mes études parce que j'y accordais une grande passion, une grande importance aussi. C'est sûr que, bon, c'est pas nécessairement... C'est pas du 9 à 4. Il y a évidemment beaucoup de choses qu'on doit faire ou de sacrifices qu'on doit faire dans notre vie pour réussir à mettre en place, disons, les comportements plus propices à ce qu'on... On réussisse nos études, là. C'est-à-dire que les soirées ou les fins de semaine, pendant que notre famille ou d'autres amis vont s'amuser ailleurs, bien, nous, on va faire des choix qui vont peut-être favoriser une étude de qualité pour un examen qui va venir. Mais quand on est aligné, quand on est sur notre X, puis c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, tu sais, souvent, c'est beaucoup plus fluide que quelqu'un qui le fait peut-être pour les mauvaises raisons, qui trouve ça pas mal plus dur.
OK. Donc ça, la médecine, ça s'est bien passé pour toi. Une fois que tu as fini tes études, T'as choisi quoi comme spécialité?
J'étais très intéressée par rapport à la médecine familiale parce que, je trouvais que c'était vraiment un privilège pour un médecin de connaître des patients du début à la fin de leur vie, donc autant dans le domaine de la pédiatrie que dans la gériatrie, puis d'accompagner ces gens-là à travers toutes les phases particulièrement difficiles ou les challenges de leur vie. Donc, je trouve que c'est une belle relation thérapeutique qu'on peut développer avec ces gens-là, puis surtout une belle gamme de connaissances générales en lien avec la santé globale, la physiologie. Donc, la médecine familiale m'a toujours intéressée beaucoup, mais j'ai longtemps hésité avec la médecine interne aussi qui m'attirait parce que j'aimais beaucoup la dimension de physiologie, de compréhension de la maladie.
C'est quoi la médecine interne?
Donc, la médecine interne, c'est toutes les spécialités, en fait, qui se retrouvent dans l'ordre de la cardiologie, la pneumologie, la gastroentérologie, c'est sûr qu'il y a des spécialités chirurgicales que je ne veux pas mettre là-dedans, comme l'urologie gynéco-obstétrique, évidemment, mais tout ce qui concerne la neurologie, la rhumatologie. Donc, c'est vraiment la science du fonctionnement global du corps, où est-ce qu'on a, au fil du temps, été capable que le corps médical a été capable de bien observer l'être humain, puis de catégoriser certains symptômes pour en faire des syndromes, des maladies particulières. Donc, il y a beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances qui émergent depuis des millénaires d'observations de l'être humain qui sont facilement accessibles à travers le domaine de la médecine interne. Alors ça, évidemment, ça m'attirait beaucoup, mais j'ai tout de même fait le choix d'aller en médecine familiale aussi pour la diversité, la polyvalence dont on pouvait faire preuve comme médecin dans les connaissances et dans l'approche avec les patients. Ce que j'ai adoré, évidemment, au début de ma pratique. Au début, je dis bien, parce que les choses se sont corsées un petit peu après.
Raconte-nous ça.
Alors, évidemment, je suis un médecin un peu marginal. Donc, je vais expliquer un peu comment j'ai commencé ma pratique. Évidemment, je suis médecin de famille standard, donc j'avais des patients à charge, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, quand on commence à créer des liens avec des clients. On les aime, on aime les revoir. C'est toujours des deuils de sentir que des fois, on prend des décisions qui font qu'on les reverra pas ou qui s'en vont ailleurs dans une autre ville où on les reverra pas. Mais j'ai combiné ma pratique de médecine familiale avec une pratique aux soins intensifs, où est-ce que je travaillais initialement au début de ma pratique, dans deux hôpitaux aux soins intensifs, dont un des hôpitaux était spécialisé il y avait une unité d'hémodynamie, c'est-à-dire que les gens qui font un infarctus aigu vont dans ce département-là pour subir un examen qui s'appelle une coronarographie, où est-ce qu'on va faire une angioplastie, donc on va aller porter un petit fil de métal en partance d'une artère du poignet ou de l'aine jusqu'au cœur pour aller déboucher une artère qui pourrait être bloquée puis implanter des petits springs de métal là, dans les artères pour les garder perméables. Donc, ça, c'est, évidemment, c'est un soin de santé très tertiaire, très spécialisé, qui était annexé à une unité de soins intensifs dans laquelle je travaillais. J'étais confrontée, évidemment, à énormément de gens qui passaient par là, qui souffraient de maladies cardiovasculaires et qui étaient hospitalisés sous mes soins par la suite pour les jours subséquents, puis que je congédiais une fois qu'ils étaient stabilisés puis que tout allait bien.
OK.
Alors, j'ai adoré ma pratique au début de ma pratique, mais rapidement, je pense que c'est la clientèle des soins intensifs particulièrement qui m'a fait, disons, ressentir un sentiment de... En fait, je me sentais bouleversée, je vais le dire comme ça. À chaque fois que je voyais un individu qui subissait un événement cardiovasculaire, bon, évidemment, je faisais mon travail de médecin, je l'examinais, j'ajustais la médication, je m'assurais que les signes vitaux étaient stables, qu'il n'y avait pas de complications. Mais à la fois, ce qui m'intéressait presque plus que tout ça, c'était de comprendre mais pourquoi cet individu-là a fini par faire un infarctus ou qu'est-ce qui l'a amené
la cause.
Exactement. Puis tu sais, bon, naturellement, les gens, quand on vit une quand on vit un événement fracassant ou brutal dans notre vie, ou qui nous fait peur, c'est souvent là qu'on, quand on frappe un mur, hein, c'est souvent là qu'on se dit, ben, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, on commence à avoir un peu plus de réflexion en lien avec nos comportements précédents. Puis c'est là qu'on devient un petit peu plus ouvert peut-être à des réflexions ou des approches qui pourraient peut-être changer les choses. Donc, c'était un beau moment pour moi que de prendre du temps pour expérimenter discuter avec les gens que je côtoyais de leur comportement dans les 10-20 dernières années, puis de ce qui a pu les propulser dans cet état-là qui a mené à l'infarctus, puis comment ils pourraient faire pour prévenir le fait d'en refaire un deuxième. Parce que
donc, tu avais de l'espace pour faire ça.
J'avais, bien, je le prenais. Par contre, mes journées étaient longues, hein, parce que plus oui. On prend le temps avec les patients, plus on a moins le temps pour les autres et plus c'est long faire une tournée puis d'autres admissions, mm-hmm. Il y a des départs. Donc, tu sais, l'unité de soins intensifs, ça roule. Alors, on n'a pas tout le temps du monde. Mais pour moi, c'est important là, de m'asseoir puis de prendre le temps de discuter de ça. Parce qu'évidemment, tu sais, le fait de souffrir d'une maladie cardiovasculaire, c'est le meilleur prédicteur de récidive, hein, parce qu'on a tout le terrain propice pour le faire. Fait qu'il faut vraiment stopper les processus de la pathologie qui sont en train de s'installer puis qui vont continuer à progresser s'il n'y a rien qui change dans la vie. Alors, à ce moment-là, dans l'hôpital dans lequel je travaillais, puis même dans la région administrative dans laquelle je travaillais, il n'y avait pas d'accès facile à des professionnels de santé en première et deuxième ligne qui permettraient à ces patients-là, sans frais, de pouvoir avoir accès à une abondance d'expertise de différentes natures, donc de kinésiologie, de nutrition, de santé psychologique. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer un petit programme de réadaptation cardiovasculaire au sein de l'hôpital, avec du financement que la fondation de l'hôpital a bien gentiment voulu me donner pour pouvoir, pour réussir à bâtir ce projet-là, puis que les patients puissent en bénéficier. Donc, à partir de ce moment-là, heureusement, les gens qui souffraient d'infarctus ou d'un événement cardiovasculaire avaient la chance d'être référés pour la première fois vers un programme qui était gratuit, où est-ce qu'ils pouvaient recevoir des conseils d'ordre différent sur leur comportement de vie dans le but de prévenir les récidives. Et ça m'a rempli de bonheur parce que c'est ce qui me bouleversait le plus parce que quand je leur parlais, je ne pouvais pas comprendre à quel point on est dans un système où les services de deuxième et de troisième ligne, une fois que la maladie est implantée, sont extrêmement efficaces, sont très fluides. Une fois qu'on rentre, on met le pied dans le système de la santé, les choses se font rapidement dans un but de guérir ou de stabiliser la maladie chronique, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait en prévention primaire et ni en prévention secondaire dans un but de diminuer le risque de récidive. Alors, j'étais toujours bouleversée de devoir prendre ce temps-là puis d'éduquer les gens en leur disant, bien, allez voir sur Google, trouvez-vous une nutritionniste, un kinésiologue ici et là. Puis bon, ça finissait que les gens y allaient rarement parce que quand il faut faire autant de travail, recherche. De recherche, il faut débourser, des fois, ça devient ça a un effet limitant pour plusieurs personnes. Mm-hmm. Alors, c'est comme ça que a commencé le centre AXIS, qui est maintenant, évidemment, a pris une tournure un peu différente. On va en parler tantôt.
Le nom AXIS, c'est...
Le nom AXIS a émergé sur un coup de tête avec ma famille à Noël un jour. On était dans le salon. Sur le bord du feu, puis là, on pensait à comment on pourrait appeler ce centre de réadaptation cardiovasculaire. Puis AXIS a ressurgi, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais on dirait que l'image qu'on ressentait quand on entendait le mot AXIS, c'est un axe, une droiture, un pilier, un fondement, une direction. Puis c'est un peu l'âme que je veux donner au Centre Axis avec la clientèle qui bénéficie des services. Donc vraiment, une image de guidance vers une direction bien-être, de sérénité, d'émancipation, de bien-être physiologique, santé physique, etc. Donc, c'est un petit peu l'image qui est ressortie, mais il n'y a pas vraiment d'exercice de conscience très élaré qui a précédé
l'inspiration. En famille, ça semble un bel exercice de conscience.
Exactement. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la santé préventive. Donc, j'avais acquis beaucoup de connaissances dans le domaine de la médecine familiale, de soins critiques aussi, de santé cardiovasculaire. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appelait là, dans la prévention cardiovasculaire. Alors, j'ai commencé à me former davantage en ce sens. Évidemment, je suis tombée comme Obélix dans son chaudron, dans le chaudron de médecine fonctionnelle. Alors, une fois que j'ai goûté à ça, je n'ai plus jamais été capable de me sortir de la tête ces principes philosophiques-là. Donc, évidemment, ça l'a teinté naturellement les services ou la façon dont on a pris en charge les patients au Centre Axis au fil du temps. C'est ce qui a conduit finalement à l'entité qui existe aujourd'hui. Et évidemment...
Je vais juste interrompre une seconde. Médecine fonctionnelle, toi et moi, on sait c'est quoi, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi.
La médecine fonctionnelle, je vais l'expliquer avec une longue explication T'sais, parce qu'il n'y a pas une définition bien claire. Donc, la médecine fonctionnelle, c'est plus l'art ou l'exercice d'essayer de comprendre d'où émerge la racine des problèmes de santé. Donc, c'est bien beau savoir qu'on souffre d'un diabète, d'une hypertension, du cholestérol, puis de savoir qu'il y a des pilules bien étudiées qui ont des indications pour chacune de ces maladies-là. Moi, ce qui m'intéresse comme clinicienne, c'est de savoir, mais pourquoi il y a de l'hypertension, pourquoi il y a du diabète, pourquoi il y a de la maladie cardiovasculaire, pourquoi il y a de la dépression, de la fibromyalgie. C'est bien beau mettre des gens dans une boîte là, avec une belle étiquette pour dire « toi, t'es en dépression, voici ton étiquette, puis ta boîte, puis voici ta pilule qui va avec. » Je veux comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'un cerveau peut perdre ses capacités d'autorégulation de ses neurotransmetteurs pour générer des symptômes dépressifs? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Dans la santé, dans la vie psychologique, mais aussi dans dans les comportements qui influencent la physiologie, qui peuvent engendrer une perte d'équilibre, d'homéostasie dans certains organes du corps qui vont créer la maladie à proprement parler. Donc, c'est vraiment un exercice qui prend beaucoup de temps parce que non seulement on est capable de répertorier les signes et les symptômes puis de mettre un nom sur un diagnostic, mais on ne fait pas juste ce que la médecine conventionnelle nous recommande, soit d'identifier le diagnostic et de prescrire la pilule qui va avec, mais on s'interroge sur tout ce qui va en dessous. Quels sont les comportements qui ont pu mener à cette maladie-là et comment on peut faire ce qu'on appelle en anglais le « reverse engineer ». Donc, on va aller déconstruire tout l'impact des comportements qui ont été buildés au fil du temps. Comment on va les déconstruire un à un pour replonger le corps dans un état physiologique initialement programmé pour fonctionner de cette façon-là et ensuite retourner vers un état de santé global, finalement. Parce que le renversement des maladies chroniques, ça existe. Ça s'installe au fil du temps, mais ça peut se désinstaller au fil du temps. Évidemment, bon...
C'est une bonne nouvelle, que c'est pas une sentence à mort. Là,
exactement. Oui, il faut quand même faire un... Je mets un bémol sur le fait qu'il y a certaines maladies chroniques qui ont évolué pendant tellement longtemps, qui ont causé de la destruction sur certains tissus, de sorte que, bon, anatomiquement, on n'est plus capable de reconstruire la destruction qui a eu lieu sur certains tissus. Donc, quand on agit assez tôt dans le processus de la maladie chronique, évidemment, la meilleure façon de prévenir, c'est de ne pas développer la maladie au départ, là, mais une fois qu'elle est développée, puis que, bon, il y a quelques années d'existence, c'est très facile ensuite de la renverser avant qu'il y ait des dommages plus significatifs qui se créent auprès de certains organes. Alors, c'est vraiment ça qui me passionne au plus haut point et qui fait en sorte que dans ma pratique conventionnelle de médecin de famille, j'ai commencé à ressentir beaucoup de tristesse et beaucoup de, En fait, j'avais l'impression d'aller travailler à reculons la plupart du temps parce que je sentais que mon travail n'était pas compatible avec mes valeurs qui devenaient de plus en plus chères à mes yeux, soit le fait, tu sais, la santé véritable, le fait d'entretenir des comportements sains pour prévenir la maladie, puis de ne pas passer par les pilules la plupart du temps en premier lieu parce que je reconnais l'importance des comportements puis de l'impact qu'ils ont sur leur santé. Alors, dans ma clientèle que j'adore, bien évidemment, je faisais très bien le travail qu'on me demandait de faire, que l'État me demandait de faire, soit de donner accès dans des rendez-vous assez rapides de 15, 20 minutes, 25, si on étire un peu les choses, pour faire le suivi des maladies chroniques de mes patients, d'ajuster la médication, de m'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, de faire des prises de sang pour s'assurer que les cibles numériques ou de quantité de X, Y, Z composantes dans le sang étaient atteintes avec tel médicament ou etc. Alors, je le faisais bien, mais dans ma tête, intérieurement, je me disais, oh mon Dieu, mais je passe à côté des choses qui sont essentielles pour garder mes patients en santé. Puis quand j'ose en parler, soit que je suis en retard d'une heure ou deux à la fin de ma journée, puis évidemment, je le faisais pour ceux que je sentais très ouverts d'entendre, puis très prêts à mettre en œuvre des comportements nouveaux dans leur vie pour améliorer leur santé. Par contre, ce n'était pas nécessairement le cas de tout le monde. Donc, je savais qu'à certains moments, je ne pouvais pas m'embarquer là-dedans. Puis, je devais rester avec mes méthodes conventionnelles, usuelles, pour répondre aux attentes du patient.
Mais en même temps, tu savais que tu ne donnais pas
les bonnes informations en ce sens. Okay. Puis, si j'avais eu le temps, si j'avais eu une heure par patient, ce qui est absolument irréaliste totalement dans le système de la santé, bien, probablement que j'adopterais une posture de coach un peu plus mieux intégrée, là, puis que je commencerais à questionner davantage les vulnérabilités, les connaissances en regard de toutes sortes de comportements, disons, le niveau motivationnel à changer X, Y, Z comportement, puis j'amènerais les gens à cheminer tranquillement vers ces changements de comportement-là, puis je les reverrais deux semaines après, puis deux semaines après pour voir, pour tester, pour évaluer l'efficacité de leurs interventions sur leur comportement, sur leur biochimie, sur leur corps. Je les aiderais à déprescrire tranquillement leur médication, mais ça, c'est malheureux, mais on ne peut pas penser que c'est possible dans un système conventionnel comme on fonctionne actuellement.
Mais il n'est pas bâti pour
ça. Puis c'est correct dans le sens où il nous faut des médecins qui sont disponibles pour être capables de voir des patients rapidement pour des problèmes de santé aigus, des fractures, des sinusites bactériennes qui partent pas, des pneumonies, des diverticulites, des appendicites. On a besoin d'une structure de santé qui permet d'octroyer des soins efficaces puis des bonnes compétences médicales pour être capable de faire des diagnostics rapides. Par contre, le problème actuel, c'est que 80 % des raisons de consultation en première ligne concernent des maladies chroniques. Ça ne concerne même pas des problèmes aigus, ça concerne des manifestations, bien des fois aigus, mais de maladies chroniques sous-jacentes. Alors, on traite...
Maladies chroniques, tu parles de quoi quand tu parles
évidemment, de maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, cholestérol, dépression, douleurs chroniques, arthrose, arthrite, inflammation, troubles du sommeil. Évidemment, troubles du sommeil, ce n'est pas un diagnostic, mais bon, ça se manifeste souvent à travers plein de diagnostics. Et souvent, tu sais, quand les gens commencent à avoir une de ces maladies chroniques-là, ça vient pas mal en paire ou en triplet. Tu sais, comme avoir un diabète, on s'en sort pas sans un médicament pour l'hypertension, puis un médicament pour le cholestérol, ou même chose pour la maladie cardiovasculaire. Là, on traite tous les facteurs de risque sous-jacents. Donc, une fois qu'on rentre dans la roue des maladies chroniques, là, on est pas mal un...
Syndrome métabolique.
Exact.
Ouais, okay.
Exactement. Donc, syndrome métabolique qui est souvent, selon moi, un précurseur de maladies chroniques. Tu sais, c'est souvent le syndrome métabolique, une façon d'annoncer aux gens qui s'enlignent vers des maladies chroniques. Puis c'est souvent, pour moi, une très belle opportunité pour intervenir avant même qu'il y ait des problèmes de santé plus majeurs qui se créent. Parce qu'on voit déjà dans le syndrome métabolique un gain de poids qui n'est pas encore classé comme l'obésité, mais quand même, on voit une mauvaise gestion des glucides, un prédiabète ou dans les environs. On voit déjà que les lipides dans le sang commencent à se perturber. On voit déjà que la pression est borderline. Alors, sans être dans le critère diagnostique, on est vraiment comme une petite bombe ambulante. Là, où est-ce que...
Ça peut éclater. Ah, oui.
Okay. Ça peut éclater, puis ça peut très, très bien répondre à la thérapie par les comportements, parce que naturellement, il n'y a pas une pilule actuellement qui existe pour renverser le syndrome métabolique. C'est pourquoi les méthodes conventionnelles ne sont pas très bonnes pour adresser cette situation.
D'ailleurs, d'après toi, là, en pourcentage, les maladies chroniques, toutes celles que tu viens de nommer, quel pourcentage peut être génétique et quel facteur, quel pourcentage peut être modifiable?
C'est une très bonne question. Puis ça, ça va nous amener à parler peut-être un peu d'épigénétique, qui est déjà un sujet qui a été soulevé dans tes précédents podcasts. Mais même si on a des prédispositions génétiques à développer des maladies, des cancers, de la maladie cardiovasculaire, on a le contrôle par rapport à l'expression de ces gènes-là. Alors, tu sais, on l'a bien vu dans la maladie cardiovasculaire, là, les gens qui ont le plus haut risque génétique de développer une maladie cardiovasculaire peuvent baisser leur risque de 50 % juste à adopter des comportements sains comme le pas fumer, pas manger méditerranéen, bouger assez. Puis il y en a qui sont encore beaucoup plus élaborés que ça dans la gestion du stress, dans la promotion du sommeil, dans les relations interpersonnelles, sont même pas considérés dans cette étude-là. Donc imagine comment on pourrait baisser. Puis c'est la même chose, il y a une étude récente en dépression, on consigne la même chose, il y a 50 % moins de risque de développer une dépression malgré un terrain génétique fertile avec l'adoption de modes de vie sains qui concernent peut-être 4 pôles, comme j'ai mentionné pour la maladie cardiovasculaire. Alors, ça commence même à être documenté dans la littérature que le terrain génétique, il peut être là, mais finalement, ça nous importe peu parce que c'est plus l'expression des gènes qui nous inquiète. Si quelqu'un adopte des comportements qui favorisent l'expression de ces gènes-là pour créer la maladie, ben c'est ça qui est problématique. Puis à l'inverse, si quelqu'un adopte des comportements qui envoient les signaux biochimiques de fermer ces gènes-là, ben même s'ils ont ces gènes-là, c'est pas grave parce que il y a pas d'impact clinique secondairement à ça.
OK. Donc concrètement, ça veut dire bon, moi j'ai d'une famille, il y a des maladies du cœur.
Ouais.
Donc j'ai une prédisposition génétique, mais si je bouge, si je mange bien, si je gère mon stress, mon gène va pas
nécessairement, évidemment, c'est la réponse est plus compliquée que ça, parce que c'est pas un gène, il y en a souvent plusieurs, hein, c'est des maladies souvent polygéniques, tu sais, le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, il y a énormément de facteurs, l'absorption des lipides, le profil inflammatoire, la façon dont le système immunitaire réagit, fabrique une plaque d'athérosclérose, il y a plusieurs étapes physiologiques qui peuvent être influencées par différents paramètres génétiques. Par contre, la plupart d'entre eux vont réagir à l'environnement biochimique dans lequel notre corps va baigner, qui est la somme de nos comportements. Donc, chaque bouchée qu'on prend sont bien plus que des calories, qui sont des informations biochimiques. Donc, la nourriture contient plein d'informations, de molécules chimiques qui vont dans notre corps et qui vont aller parler à notre microbiote, parler à nos cellules, parler à notre génétique pour ouvrir ou fermer des gènes. Même chose avec la qualité de notre sommeil, parce que ça influence nos niveaux d'hormones de différentes natures.
Quelle belle image! Donc, croquer dans une pomme puis croquer dans une bouchée de chips,
c'est pas la même chose.
C'est pas le même message.
On dit souvent, tu sais, des calories, c'est des calories. Mais oui, quand on utilise une machine à calorimétrie puis qu'on brûle une pomme puis une chip puis qu'on regarde, il y a une calorie là, oui, parfait. Mais l'impact de cette calorie-là dans notre corps est complètement différente. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que toutes les calories ne sont pas égales. Donc, il y a vraiment un impact biologique vraiment franc et bien documenté qui relève de nos habitudes alimentaires puis qui peut avoir un impact très important sur notre génétique. Et il y a des études, en fait, même c'est des vieilles études, le pire, mais j'aime bien les citer parce que je trouve qu'on les fait pas ressortir davantage, mais ça fait au moins, je te dirais, une bonne vingtaine d'années que cette étude-là que je vais citer existe. Mais on a regardé tous les cas de maladies cardiovasculaires dans une partie du monde, là, plusieurs milliers de patients. Puis on a essayé de construire un modèle dans lequel on était capable de mettre un doigt sur tous les facteurs étiologiques ou les facteurs de risque qui existaient au préalable avant que la maladie cardiovasculaire puisse se manifester. Puis ce qu'on a compris, c'est que dans 90 % des cas, là, presque 90 % des cas, c'est tous des facteurs de risque qui auraient pu être évités, qui auraient pu être modifiés. On parle de tabac, de consommation d'alcool, de stress psychologique avec des relations interpersonnelles malsaines ou absence de relations. On parle d'une mauvaise consommation pas assez de consommation de légumes, trop d'aliments transformés, des choses comme ça. Donc, imagine 90 % de toutes ces maladies-là qui peuvent être finalement... Là, évidemment, je parle pour la maladie cardiovasculaire, mais on reconnaît que la physiopathologie, ça, c'est la façon dont la maladie se construit. Pour la maladie cardiovasculaire, ce phénomène-là est très C'est le même dans le cancer, c'est le même dans le diabète, c'est le même dans faire du cholestérol ou de l'hypertension. Là. Donc, c'est les mêmes mécanismes de dysfonction qui vont simplement créer un symptôme différent qui va se manifester soit dans le cœur, dans les vaisseaux sanguins, mm-hmm. dans la régulation de notre sucre, etc. Okay. Donc, ça serait valide pour pas mal de, d'autres maladies.
Là, je fais une micro-parenthèse parce que tu as parlé d'alcool et hier, le gouvernement ouais. canadien a annoncé ses nouvelles normes, mesures, recommandations.
Ah, moi, je pense que l'alcool, ça ne devrait pas faire partie de notre menu, tout simplement. L'alcool devrait être consommé occasionnellement si ça fait partie de nos mœurs et de coutumes dans le cadre de party, cérémonie, peu importe, là, mais ça ne devrait pas faire partie nécessairement de notre menu quotidien. Le petit verre de vin qu'on pensait bon pour le cœur.
Bourré oui, de resveratrol.
Oui, le resveratrol. Le resveratrol, on l'aime. On est capable de l'avoir aussi dans d'autres aliments. Puis mm-hmm. on est capable aussi de le prendre en supplément. On n'est pas obligé de le prendre avec une source d'alcool qui vient avec. Alors, c'est sûr que l'alcool, ça a vraiment des enjeux particulièrement importants sur la biologie du corps, sur la biotransformation, sur l'utilisation de certains types d'antioxydants qu'on a dans notre corps qui va tout servir à neutraliser l'effet de l'alcool qu'on ingère plutôt que de faire d'autres travails, de neutraliser d'autres types de toxines qu'on a dans le corps. Alors, moins on a de toxines, l'alcool inclus, mieux notre corps va se porter. Alors, une fois de temps en temps, évidemment, c'est bien correct parce qu'on est une belle machine à détoxifier. Le corps fonctionne bien pour ça. C'est juste que si on l'embourbe à tous les jours de 2 verres de vin et en plus, on se met toutes sortes de T'sais, on se baigne dans des toxines, on respire des polluants environnementaux, on s'applique sur la peau toutes sortes de crèmes contenant des produits chimiques qui sont absorbés mm-hmm. dans notre corps, qui doivent être métabolisés et excrétés. L'eau qu'on boit peut être contaminée par toutes sortes de choses. Les aliments transformés qu'on mange qui ont plein d'émulsifiants, de colorants, d'agents de conservation qui sont des agents qui ne font pas partie de notre biologie normale et qui doivent être métabolisés et excrétés de notre corps, encore une fois, sont tous des additifs qu'on ajoute à la charge toxique de notre corps, comme l'alcool peut l'être. Alors, pour moi, l'alcool, je trouvais que les recommandations là, précédentes de plutôt libérales en lien avec l'alcool étaient beaucoup trop élevées. Puis je pense que c'est vraiment préférable de limiter notre consommation d'alcool. Pour plein d'autres raisons aussi, mais là, ça...
OK. Bon, ben merci. Fait que je ferme cette parenthèse-là, puis on retourne à la prévention et à la médecine. Donc là, tu nous as fait un beau portrait de la médecine fonctionnelle, de l'épigénétique, de la prévention. Comment tout ça en arrive à créer aujourd'hui le Centre Axis?
Bon, alors le Centre Axis a vécu une belle métamorphose dans les derniers temps parce que je vous ai dit tantôt que le Centre Axis a commencé son existence comme centre de réadaptation cardiovasculaire. Au fil du temps, pour une question de financement, on a dû changer notre fusil d'épaule puis peut-être laisser le volet réadaptation cardiovasculaire à d'autres instances qui deviennent spécialisées en la matière, puis se rediriger vers, disons, des services qui compensent un besoin, en fait, qui répondent à un grand besoin présent dans la collectivité, puis à la fois qui est assez innovateur, puis qui émerge de mes connaissances acquises au fil du temps en médecine fonctionnelle. Donc, on a vraiment décidé de faire un pivot, puis de structurer l'équipe pour être capable d'offrir des services assez élaborés dans les évaluations puis les prises en charge en médecine fonctionnelle. Évidemment, qui s'avèrent très complémentaires aux services conventionnels reçus. Hein? Il faut vraiment bien l'entendre.
C'est pas l'un ou l'autre.
Pas du tout. Alors, tu sais, on a tous besoin d'avoir accès à des soins de santé aigus. On a besoin d'avoir accès à un sans rendez-vous, à l'urgence quand c'est requis. On a besoin d'avoir accès aux méthodes d'investigation et de détection conventionnelles desquelles sont issues les guides de pratique des différentes sociétés savantes d'endocrinologie, de cardiologie, de gastroentérologie. Alors, il y a quand même un cadre qui est important de suivre, mais une fois qu'on a navigué dans ce cadre-là puis qu'on on a pris ce qu'on avait besoin puis qu'on en a reconnu les limitations, c'est là que la médecine fonctionnelle devient intéressante comme complément. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu en médecine conventionnelle la plupart du temps? C'est les racines des problèmes. Alors, c'est bien beau traiter la pathologie ou faire les investigations pour dire ben il y a pas de manifestation de maladie que nous on connaît dans le monde conventionnel. Ça veut pas dire qu'il en existe pas à l'échelle moléculaire, à l'échelle physiologique dans notre corps qui manifeste pas encore une pathologie clinique qui est bien objectivable. Alors, c'est là que la médecine fonctionnelle peut s'intéresser à l'équilibre entre les systèmes. Donc, en allant étudier, voir comment le microbiote est constitué, comment il se comporte, quels sont ses mécanismes de communication avec le reste du corps, comment il peut influencer les autres systèmes du corps pour être capable de bien fonctionner, comment il peut contribuer à la digestion puis l'absorption des bons nutriments, comment l'individu même s'alimente, est-ce que c'est suffisant pour ses besoins, parce qu'il n'y a pas un one size fits all dans l'alimentation non plus. Il y a des gens pour qui les besoins nutritionnels vont être pas mal plus élevés que ce qui est écrit sur l'étiquette dans les, ouais. dans les valeurs recommandées quotidiennes.
Et comme coach santé, je suis souvent surprise de voir à quel point il y a beaucoup de gens, des femmes surtout, qui ne mangent pas assez.
Ah oui, ça c'est clair, les protéines surtout, ouais. Et puis tout à fait. Donc déjà, ces gens-là ne répondent pas aux valeurs recommandées quotidiennes, mais pour certaines, il y aurait même des valeurs quotidiennes recommandées qui seraient encore supérieures à ce qu'on aurait estimé pour leurs besoins. Puis d'ailleurs, une parenthèse, toutes ces valeurs nutritionnelles recommandées ont été créées, ont été calculées il y a 50 ans avec une population qui n'avait pas la même charge de maladies chroniques et qui n'évoluait pas dans la même...
Et qui n'était pas aussi sédentaire.
Pas aussi sédentaire, qui n'était pas aussi obèse, hein, parce que l'obésité, pour beaucoup de nutriments, augmente nettement les besoins de plusieurs nutriments. Alors, probablement qu'avec ce qu'on... On utilise des concepts de nutrition un peu plus anciens. On ne permet pas à la majorité des individus de combler leurs besoins. Puis d'ailleurs, on voit bien dans les derniers chiffres de Statistique Canada, puis en plus, c'est des études qui datent bientôt de 10 ans. Là. Donc, probablement qu'en ce moment, en 2023, on est encore pire qu'on l'était il y a presque 10 ans. Mais il y a une très grande portion de la population qui a des déficits vitaminés, minéraux, multiples. Et tu sais, on parle de 10 à 80 % là, selon le minéral ou la vitamine observée, ou magnésium, vitamine D, thiamine, B12, zinc, sélénium,
etc. C'est parce qu'on mange mal? Est-ce que c'est parce que les terres sont plus pauvres et qu'il y a moins de minéraux dedans, ou c'est parce qu'on ne les absorbe pas?
Toutes ces réponses sont bonnes. Alors, bien entendu, on sait, il y a des études qui ont documenté que les terres dorénavant, c'est sûr qu'il n'y a pas immensément d'études, il y en a peut-être 4 ou 5 que j'ai trouvées sur le sujet, qui témoignent qu'en 50 ans, là, la charge nutritionnelle de certains aliments s'est dégradée au fil du temps. Donc, le contenu en magnésium, en cuivre, en zinc.
Le brocoli est un bel exemple.
Le brocoli, peut-être. Là, je ne sais pas le cas du brocoli en particulier, mais les études que j'ai lues voyaient peut-être 10 légumes, 10 fruits. Puis bon, il y avait des conclusions qui étaient tirées à ce sujet-là. Il y a environ 50 % des calories que les Canadiens consomment qui sont transformés ou ultra-transformés.
C'est horrible.
Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça dénature l'aliment complètement et ça retire la plupart du temps une grande portion des vitamines et des minéraux que l'aliment contient, parce que les substances non altérées sont maintenant altérées, broyées, chauffées, mélangées avec d'autres constituants qui empêchent une bonne absorption. Puis souvent, il y a certains aliments pour lesquels on doit rajouter des vitamines artificielles, par exemple l'acide folique qu'on ajoute dans les farines, qui est une formulation de vitamines qui est beaucoup moins physiologique que les folates alimentaires qu'on peut trouver dans les légumes verts, par exemple, ou dans les grains qui sont non transformés. Alors, c'est pas une mince affaire là, de considérer qu'on mange des aliments transformés. Ça peut vraiment altérer notre capacité à être bien nourri. Probablement que tu as nommé plein d'autres sources. Peut-être que, bon, l'absorption gastro-intestinale. Ouais. Alors, il y a plein d'individus qui ont des problèmes de microbiote, qui ont des pullulations bactériennes intestinales, qu'on appelle le SIBO en anglais, qui ont donc des problématiques d'absorption de plusieurs minéraux et vitamines, même s'ils s'alimentent bien. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on prend par la bouche va être bien absorbé par notre tube digestif. Puis, maintenant qu'on connaît de plus en plus la génétique, la nutrigénomique, on comprend qu'on est tous différents. Tous nos transporteurs sont différents. Donc, les transporteurs à la surface des cellules qui permettent d'absorber un nutriment pour l'amener dans notre sang. Puis ensuite, à la surface des cellules de notre corps, de prendre une vitamine ou un minéraux puis de l'absorber du sang à l'intérieur de la cellule. Encore une fois, il y a une hétérogénéité génétique qui nous confère un risque plus ou moins élevé des fois de ne pas bien faire ce processus-là. Alors, la nutrition doit être un processus qui est extrêmement bien personnalisé. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de bons tests qui nous permettent de faire des bonnes interventions très ciblées, ou ceux qui existent sont américains, ça coûte cher, c'est difficile d'accès. Alors, c'est un enjeu. Mais cliniquement, on est quand même capable de savoir.
Mais oui, puis c'est renversible, on peut les
renverser. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis des fois, on a besoin de suppléments. Des fois, l'alimentation ne suffit pas à combler les besoins pour différentes raisons. Des fois, on a besoin de suppléments. Des fois, c'est transitoire. Des fois, c'est à vie. Le meilleur exemple, les véganes qui doivent prendre des suppléments de vitamine B12 ou de zinc parce qu'ils n'en ont juste pas assez dans leur alimentation. Alors, il faut vraiment bien préciser ou qualifier l'état nutritionnel de nos patients pour être capable de bien les accompagner.
Okay.
Un autre volet de la médecine fonctionnelle, si tu veux que je décrive un petit peu ce qu'on peut faire, il y a le niveau hormonal. Donc, on observe tous les hormones du corps, puis on espère qu'elles travaillent en synergie, puis qu'elles se retrouvent à des niveaux qui sont tout à fait en accord avec une physiologie optimale du corps. Donc, il faut aussi penser que les hormones se font biotransformer. Hein? Donc, le foie, le microbiote participent à cette biotransformation-là et à cette excrétion en dehors du corps. L'une ou l'autre des fonctions pouvant être altérées, ça va changer le niveau d'hormones dans le corps, indépendamment si on en donne ou pas. Le niveau d'inflammation dans le corps, si on a des comportements de mauvais sommeil, on prend beaucoup d'alcool, on prend beaucoup d'aliments transformés, on est résistant à l'insuline, ça va influencer notre niveau d'hormones. Encore une fois, à quoi ça sert de tout le temps supplémenter si on n'est pas en train de régler la source de la perturbation. Fait que ça, c'est important de jamais l'oublier quand on travaille avec les hormones. J'ai nommé tantôt la biotransformation. C'est clair qu'on s'intéresse beaucoup à tous les phénomènes qui sont d'ailleurs très, très bien documentés, du métabolisme de toutes les substances chimiques qui vont dans notre corps, autant que ce soit des toxines, des polluants, même des vitamines ou des polyphénols. Donc, comment ils font pour être biotransformés, puis quel effet ça a, comment on peut optimiser ces mécanismes-là pour favoriser une biotransformation saine, éviter que les toxines s'accumulent dans notre corps de diverses natures. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en médecine fonctionnelle. On va travailler aussi sur sur la fonction mitochondriale. Donc, la mitochondrie, c'est un petit organisme cellulaire qui fait partie... En fait, il y en a des centaines, voire des milliers par cellule de notre corps. Il y en a juste quelques cellules de notre corps qui n'en ont pas. Mais l'ensemble des cellules ont des mitochondries. Puis cette mitochondrie-là, c'est un organite qui fabrique l'énergie de nos cellules. Donc, c'est vraiment dans cet organite cellulaire-là que, par exemple, le glucose qu'on va manger ou qui va être libéré en circulation va être transformé pour fabriquer de l'ATP, qui est l'énergie qui va faire fabriquer toutes les cellules de notre corps. Donc, cet organite-là est extrêmement important. Imaginez que certaines cellules ne soient pas capables de fabriquer assez d'ATP pour leur fonctionnement, ben ça veut dire que le fonctionnement de l'organe va être altéré. Je pense à une cardiomyopathie en insuffisance cardiaque. Les mitochondries ont vraiment beaucoup de problèmes dans ce temps-là, puis il n'y a pas assez d'énergie qui est produite pour que les cellules du cœur fonctionnent très bien. Même chose pour la santé cognitive. Alors, dans un contexte de démence, d'Alzheimer, par exemple, les mitochondries des cellules vont commencer à être beaucoup altérées, de sorte qu'il y a beaucoup moins d'énergie qui va être produite pour faire fonctionner cette cellule-là. Même chose pour le foie, même chose pour tous les organes importants qui nous permettent d'avoir une fonction, puis de vivre, puis de faire nos
actions. Hey, ça donne envie de prendre soin de foie.
Oui!
OK. Ouais. Concrètement, à Centraxis, les programmes qu'on propose, c'est quoi?
Alors, les programmes, on en a créé plusieurs. On a créé plusieurs trajectoires selon les besoins des gens. Donc, on a créé des trajectoires pour les gens qui identifient leurs problèmes comme étant plus de nature hormonale. Donc, une trajectoire sur la santé hormonale des femmes, par exemple. Éventuellement, les hommes, on ne vous oublie pas, on va vous intégrer. On a créé des trajectoires pour les gens qui ont des problèmes gastro-intestinaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent ballonnés, ils ont des crampes, de la diarrhée, de la constipation, des gaz, ils digèrent mal. Puis pourtant, ils vont voir leur gastro-entérologue, ils ont eu des colonoscopies, des gastroscopies, tout est normal. On leur dit qu'ils ont un côlon irritable. Puis, tu sais, en médecine fonctionnelle, ce qu'on observe, c'est des dysbioses très importantes, des SIBO. Et ça peut se traiter, ça peut se corriger, ça peut se moduler. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'évidence scientifique en arrière pour déterminer des recettes très claires, sans quoi, évidemment, le système conventionnel implanterait ces méthodes-là depuis bien longtemps. Mais il y a assez d'évidence pour déterminer qu'il y a plusieurs actions qui fonctionnent bien pour changer le microbiote. On a une trajectoire qui se jumelle à celle-là, qui concerne les maladies auto-immunes, hein, parce qu'on sait que la santé du microbiote est intimement corrélée avec la santé immunitaire. Donc, les gens qui ont des maladies auto-immunes sont souvent des gens qui vont avoir ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin perméable. Donc, on observe qu'entre les cellules du système digestif, il y a des gaps qui se créent parce que, bon, pour plusieurs raisons, puis là, si on parle de leaky gut un jour, ben je mentionnerai toutes les raisons, mais le système immunitaire qui est caché à travers la membrane intestinale va réagir fortement aux bactéries qui sont dans le microbiote, puis aussi aux allergènes alimentaires, donc le gluten, la caséine ou toutes sortes d'autres allergènes alimentaires qui vont déclencher une réponse immunitaire dans le système digestif, puis qui peut contribuer à générer des processus inflammatoires ou auto-immuns chez certaines personnes. Évidemment, il faut avoir un contexte là, de prédisposition, puis toutes sortes d'autres critères là, pour bien cadrer dans cette définition-là. Mais on a une trajectoire qui va aider ces gens-là. On a une trajectoire aussi qui va se pencher sur la santé cognitive, donc inspirée du docteur Dale Bredesen, neurologue aux États-Unis, qui a monté un très beau protocole qui s'appelle RECODE, qui permet d'outiller les gens qui ont un début de démence, particulièrement l'Alzheimer, ou même ceux qui sont à risque d'en souffrir parce qu'ils ont des prédispositions génétiques ou des antécédents familiaux, de renverser la vapeur en adressant différents comportements de leur santé dans le but d'améliorer leur physiologie et de ralentir la progression de cette démence-là. Alors, on a une trajectoire qui se focus là-dessus. On en a une autre qui s'intéresse aussi à la santé psychologique. Donc, les gens qui ont des problèmes de fatigue chronique, dépression, anxiété, tout ce qui...
Il y en a beaucoup. Oui, la pandémie
exactement.
En a créé encore plus.
Tout à fait. Tout ce qui se traite avec des antidépresseurs dans le système conventionnel, ça marche bien dans cette trajectoire-là. Donc, évidemment, on va parler de santé cognitive en même temps, mais aussi on va s'intéresser beaucoup au système du corps en entier, parce qu'on sait que l'état inflammatoire ou l'état nutritionnel a un impact direct sur la santé cognitive et la santé, donc, mentale, parce que c'est nos neurones qui fabriquent des neurotransmetteurs puis qui ont la possibilité de créer des émotions. Alors, ça s'adresse aussi bien dans cette optique-là. Et on aura éventuellement des trajectoires qui seront créées dans le futur. Donc, une qui concerne la périnatalité, donc les femmes qui veulent concevoir, la fertilité, le syndrome d'ovaire polykystique, une grossesse en santé pour optimiser les chances que notre enfant à naître soit en bonne santé, parce qu'on sait qu'enceinte, on peut influencer grandement l'épigénétique de notre enfant. On en a parlé tantôt. Nos comportements influencent directement la génétique de notre enfant puis son expression génique. Donc, c'est vraiment important pour une femme de considérer sa grossesse comme étant extrêmement précieuse à travers des comportements. Et on aura aussi des trajectoires qui concernent la pédiatrie pour la prise en charge d'enfants qui ont des problématiques diverses qui ne sont pas bien réglées par la médecine conventionnelle, les allergies alimentaires, l'eczéma, les troubles de développement, autisme, etc. Évidemment, on n'a pas la réponse à tout. Il n'y a pas de remède miracle, mais une chose est certaine, chaque personne qui ose miser sur ses comportements alimentaires, gestion du stress, sommeil, relations saines, environnement non toxique, spiritualité, va être mieux que quelqu'un qui ne le fait pas. Alors nous, vraiment, c'est ça qu'on fait dans notre
équipe. Ça ne peut pas nuire.
Exactement, ça ne peut pas nuire, absolument.
OK. Dans la médecine conventionnelle, traditionnelle, le médecin est vraiment au cœur de tout.
Oui.
Dans la médecine fonctionnelle, le médecin est moins omniprésent. Peux-tu nous dire, c'est quoi la place du médecin? Puis c'est quoi qui prend cette place-là?
En fait, on travaille en équipe. Il n'y a personne qui est plus important que d'autres. Tout le monde a son rôle, tout le monde a son chapeau d'expert, puis il y a une importance très importante dans la trajectoire du patient. Le médecin, je te dirais que on n'a pas besoin d'être médecin pour faire de la médecine fonctionnelle. C'est pour ça qu'au Centre Axis, au départ, évidemment, j'aidais, je voyais des patients avec l'équipe pour être capable de prodiguer des soins en réadaptation cardiovasculaire. Puis un jour, j'ai pris un recul pour permettre à l'équipe de prendre sa place en avant. Évidemment, je supervise l'équipe, je m'assure que les bilans sanguins sont dans les valeurs de la normale. On peut faire de la déprescription ou de l'ajustement thérapeutique grâce à mes interventions en fonction de l'évolution du patient, mais faire de la médecine fonctionnelle, essentiellement, c'est vraiment de s'assurer de favoriser une physiologie optimale dans toutes les sphères de la vie, tant sur le plan psychologique que le plan comportemental, des choix qu'on fait pour se choisir dans la bienveillance, que sur le plan alimentaire, que sur le plan de l'activité physique, que sur le plan du sommeil, et j'en passe, évidemment. Alors, l'équipe du Centre Axis est constituée, donc, de plusieurs professionnels qui sont supervisés par un médecin plus en background. Alors, on travaille évidemment avec des coachs santé, oui, comme toi, qui, oui, sont extrêmement précieuses.
Grand plaisir de faire partie de ton équipe.
Ah oui, c'est réciproque, tout à fait. Alors, tu sais, donc les coachs sont super importants dans le changement de comportement, ouais, dans l'observation des défis qui peuvent empêcher de progresser, puis comment on peut faire pour les maîtriser, les contourner, les accepter des fois avec bienveillance, puis trouver des façons alternatives de fonctionner pour faire en sorte que des changements vont être introduits dans la vie de façon vraiment durable. Mm-hmm. Alors, nos coachs sont vraiment précieux. C'est aussi des mentors. Hein? C'est pas juste des coachs santé, mais des mentors de médecine fonctionnelle. Donc, ils vont avoir des connaissances, mm-hmm, en médecine fonctionnelle pour connaître c'est quoi l'importance de telle approche alimentaire, l'importance de faire les choses de telle façon, puis d'être capable de bien accompagner les gens dans leur trajectoire. Donc, c'est vraiment les pivots vraiment centrales des trajectoires avec nos patients. On a évidemment des nutritionnistes qui sont extrêmement compétentes, oui, qui ont des très belles connaissances en nutrition fonctionnelle. Alors, en nutrition fonctionnelle, on va vraiment plus profondément dans la matière. On fait pas juste être dans l'équilibre alimentaire pour éviter des carences. On va vraiment comprendre quelle est la synergie entre l'alimentation, le microbiote et l'état systémique. Donc, en maladie auto-immune, je l'ai mentionné, hein, il y a différentes approches alimentaires qui peuvent s'avérer très puissante dans la diminution des réactions auto-immunes. Je parle du jeûne, je parle du retrait de certains allergènes comme le gluten ou la casine ou d'autres allergènes qui ont le malheureux effet de créer des réactions immunes si jamais il y a un terrain propice, là, et etc. Donc, nos nutritionnistes sont très bonnes pour ça. On a une intervenante en santé mentale, intervenante psychosociale, qui se donne comme mission de travailler avec les individus qui vivent des difficultés sociales, relationnelles dans leur famille, dans leur vie, mm-hmm, antérieure, des façons d'assainir leur environnement relationnel et avec eux-mêmes, bien sûr, parce que ça fait partie de la guérison, hein, de commencer à changer un peu son mindset vers l'incarnation de la santé puis du bien-être. Donc, il faut faire du travail sur soi en ce sens.
Enlever les fausses croyances.
Exactement. On a une professeure de méditation et consultante en gestion du stress et pleine conscience. Donc, elle se donne comme mission, elle aussi, d'accompagner les gens pour introduire dans leur vie des stratégies méditatives et de restauration régulière et qui cadrent avec la réalité de chacun. Que ce soit par des exercices de méditation pleine conscience, de respiration profonde, de toutes sortes de nature. Son rôle, c'est vraiment de réussir à introduire dans la vie des gens différentes méthodes qui peuvent aider cet individu-là à trouver ces périodes de restauration qui sont aussi fondamentales dans la restauration de l'équilibre physiologique du corps.
Que d'activité, oui.
Ouais. Ouais, il faut qu'il y ait une belle, okay, balance entre les deux. Okay. On a nos kinésiologues aussi qui sont spécialisés dans le mouvement. Alors, il y a des programmes d'entraînement personnalisés en fonction des capacités cardiovasculaires et musculaires qui sont mesurées au départ. Et il y a une personnalisation qui est faite dans le programme. Puis on continue pour le reste de la trajectoire pour voir l'évaluation, la progression. Évidemment, on analyse les marqueurs de bioimpédance. Donc, on observe les pourcentages de masse grasse, de masse maigre. On essaie d'augmenter les ratios parce qu'on sait que ça a une influence positive sur la santé. Évidemment, là, j'oublie plein de monde, c'est sûr, mais on a des pharmaciens, hein, qui sont là pour nous, pour s'assurer que les ajustements thérapeutiques et les méthodes de déprescription qu'on fait, okay, sont faites de façon sécuritaire, surtout si les patients décident de prendre des produits de santé naturelle ou des suppléments. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction, mm-hmm, puis qu'on ne crée pas de problème avec cette suggestion-là, avec la médication usuelle, donc nos formations sont très précieuses. On a aussi des naturopathes. Alors, pour nous, c'est important de donner le choix à nos clients d'opter pour les méthodes thérapeutiques qui sont les plus compatibles avec leurs valeurs, leur culture et leurs envies. Alors, pour plusieurs, évidemment, ceux qui aboutissent au centre Axis ont souvent expérimenté beaucoup de choses dans le passé, ont déjà essayé beaucoup de médications. Pour plusieurs, certains n'ont pas fonctionné, puis ils sont à la recherche de d'autres stratégies qui pourraient les aider. Et en naturopathie, il y a aussi plein d'outils intéressants. Malheureusement, il n'y a pas autant d'évidence scientifique qui sous-tend les conduites naturopathiques que celles qui sous-tendent une prescription pharmacologique, hein, parce que le financement des études ne se fait pas de la même façon quand il n'y a pas de compagnie pharmaceutique.
Oui, non, mais quand ça fait du bien, ça fait du
mais
bien.
Mais quand ça fait du bien, puis tu sais, on a quand même des données qui datent de millénaires, hein, d'utilisation de différentes cultures, où est-ce qu'on sait très bien que les bénéfices sont extrêmement puissants et que les risques sont très limités. Là,
comme tu disais tantôt, de prendre soin de sa santé, d'aller bouger puis de bien manger, oui. On ne peut pas se faire de tort.
Hein, exactement, ouais. Tout à fait. Donc, ouais. Les naturopathes travaillent avec nous pour permettre aux patients d'être bien guidés. Si jamais les patients veulent aller vers quelque chose qui touche à la naturopathie, bien, nous, on veut s'assurer que nos collègues puissent avoir accès à des informations importantes de la santé des gens, puis qu'on puisse leur parler, collaborer avec eux, puis qu'ils puissent aussi parler avec le pharmacien pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc, c'est vraiment une belle dynamique d'équipe, en espérant que j'oublie personne. Évidemment, tout notre personnel de support qui s'occupe nos infirmières, je ne les ai pas nommées.
Les infirmières
qui sont un peu les représentantes des médecins, qui sont extraordinaires et qui sont vraiment les personnes qui visent à bien évaluer chacun des individus et à comprendre tous les mécanismes physiopathologiques, physiologiques qui ont mené vers la maladie. Donc, ils ont vraiment une structure de questionnement qui très compatible avec la médecine fonctionnelle, de sorte qu'après ça, quand on révise les cas ensemble, je comprends bien ce qui se passe, on peut bien orienter nos actions selon les priorités thérapeutiques qu'on a identifiées. Et elles sont très, très bonnes et précieuses, les infirmières.
Et la beauté de tout ce beau monde-là, c'est qu'on se parle tous entre nous.
Exactement. Tous les jours, hein, oui. Ça prend du temps.
Oui, ça prend du temps.
Ça prend du temps tous les jours. Tous les jours, on communique ensemble sur différents patients pour comprendre où on en est, pourquoi il y a eu un échec à telle avenue, pourquoi tel autre est un succès. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas un patient qui est pareil sur une centaine. Il n'y en a pas un pour qui...
C'est ce que j'allais dire, c'est hyper personnalisé.
Tellement personnalisé,
oui. Il n'y a pas deux, deux personnes dont la trajectoire sont pareilles.
Exactement. Il y a un squelette de base hein, qui est comme représentatif un peu selon les besoins des pathologies en question, mais une fois qu'on est dans la trajectoire, l'approche est différente où les heures peuvent être un petit peu modulées pour correspondre beaucoup plus aux besoins de chaque individu en fonction de sa pathologie. Donc, je trouve que c'est vraiment un modèle intéressant qui compense bien ce qu'on n'est pas capable de faire dans le réseau conventionnel. On est un organisme à but non lucratif, de sorte que les gens qui paient pour leurs services, c'est des sous qui sont directement investis pour payer les professionnels de la santé qui travaillent au centre Axis et qui sont... Puis tout l'argent est réinvesti, là, donc les levées de fonds, les dons, tout est réinvesti pour vraiment faire en sorte que la clientèle reçoive des informations, donc des outils d'enseignement, des séminaires éducatifs, on se rencontre en réunion multidisciplinaire, on crée... toutes sortes de beaux outils, matériels, ateliers ensemble. Donc, c'est vraiment une belle mission que cet organisme à but non lucratif a, que de promouvoir la santé préventive auprès de la population en espérant qu'on vive longtemps, parce que les finances, c'est toujours précaire hein, pour un OBNL. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, ce genre de programme-là, c'est 15 à 20 000 $ là, facilement. Là, aux États-Unis, il y a une nette longueur d'avance sur la médecine fonctionnelle.
Oui,
au Québec,
c'est sûr,
on est nettement en retard. Mais nous, notre mission, c'est vraiment de favoriser l'accès. Alors, c'est vraiment moins cher que partout ailleurs dans le monde où on pourrait avoir accès au même genre de programme. Mais reste quand même un bon investissement de la part des Québécois. Là,
c'est comme c'est un OBNL, donc, s'il y a les gens qui veulent faire un don...
Ouais.
Reçoivent un reçu pour l'impôt. C'est important de le préciser.
Exactement. Exactement. Donc, on est un organisme enregistré auprès de l'Agence de revenus du Canada. Donc, on peut émettre des reçus de dons pour tous ceux qui ont envie de nous encourager. Il y a des levées de fonds qui vont avoir lieu auxquelles tout le monde est invité, naturellement, et qui vont nous permettre d'amasser des sommes, qui vont nous permettre d'améliorer l'offre de services qu'on octroie à la population pour le moment.
OK. Dernière question. Après ça, je te laisse aller. C'est plus de nature philosophique et large. La médecine qu'on pratique au centre Axis, la médecine préventive, si elle avait plus, c'est quoi son importance? Mettons, on connaît les ratés du système traditionnel, puis on n'est pas là pour faire l'analyse de ça, mais s'il y avait plus de médecine préventive, quel cadeau on se ferait comme individu, comme société?
Mon Dieu, ça serait un cadeau pour soi-même en premier lieu, hein, parce que quelqu'un qui est très malade et qui a déjà été en santé peut probablement dire qu'il regrette plein d'affaires, hein, puis qu'il était tellement mieux quand il était en santé, à ne pas naviguer 3 fois par semaine à l'hôpital pour des rendez-vous en spécialité, puis souffrir, puis prendre plein de pilules. Là. Alors, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même en premier lieu pour avoir une meilleure vitalité, des meilleures performances cognitives, une meilleure sérénité dans notre vie en général. Puis un cadeau à la CCT, bien sûr, parce que, mon Dieu, on parle de, tu sais, de 80 à 90 % de prévention de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'hypertension, de diabète, de tout ce qui fait en sorte que nos CHSLD sont pleins en ce moment. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on est en train de payer des millions de dollars en frais de santé, qu'on paye une proportion immense de nos impôts qui va en frais de santé. C'est pour faire rouler des hôpitaux, pour faire entretenir des institutions qui gèrent la maladie chronique parce qu'on n'a jamais été capable de la prévenir en premier lieu avec des choses tellement simples. Puis on se fera aussi un cadeau en termes de... dans la société parce qu'on comprendrait que cette approche-là est la première à s'intéresser à l'humain dans sa globalité, dans ses valeurs, dans sa culture, dans ses envies. Et quoi de mieux que d'être en phase avec un traitement qu'on adopte dans notre vie pour guérir?
Pour être bien.
Puis pour être bien. Tu sais, on reconnaît l'effet placebo, puis on reconnaît l'effet nocebo. Hein? Placebo, quand on prend une pilule de sucre, puis qu'on pense que c'est l'ingrédient actif, puis on va soudainement mieux parce que notre corps...
Mais ça, c'est le mind over body.
C'est le mind, c'est ça, exactement. Mais tu sais, imaginez, peu importe l'effet placebo, imaginez que vous êtes en train de faire quelque chose dans votre vie, un comportement, puis vous savez très franchement que ce que vous êtes en train de faire, c'est du bien à vous. Vous êtes tellement plus propice à développer des effets secondaires positifs de ce comportement-là. Et à l'inverse, si vous prenez une pilule, puis là, vous êtes un peu anti-pilule, puis là, vous dites « Ouais, mon médecin veut que je prenne ça, puis ça ne me tente pas. » Puis là, c'est là que vous allez développer toutes sortes d'effets secondaires parce que c'est l'effet nocebo de cette thérapie-là. Donc, d'ouvrir, comme professionnel de la santé, de se positionner comme un guide, un coach, puis de prendre le patient où il est rendu, puis se dire « Hey, toi, dans ta vie, dans ton vécu, dans tes envies, dans ta culture, dans tes valeurs, qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ton processus de guérison? C'est-tu l'acupuncture? C'est-tu l'ostéopathie? Si oui, parfait, je vais t'accompagner. On va trouver des gens compétents, on va trouver de la littérature scientifique qui sous-tend ça pour que ça fasse tellement sens pour toi que tu en retires des bénéfices. Même chose dans toutes les autres alternatives. Les autres médecines alternatives, ou pour certains, ça peut être encore des pilules. Hein? Si c'est des pilules, ben correct, on va accompagner avec les méthodes conventionnelles pharmacologiques.
Oui, non, mais les pilules ont des bons côtés aussi. Hein,
ben, certaines d'entre elles peuvent quand même permettre d'assurer une longévité beaucoup plus grande. Certaines d'entre elles sont capables de contrôler des maladies chroniques qui autrement seraient complètement débalancées si on ne les avait pas. Mm-hmm. Alors, elles sont importantes, c'est juste qu'il ne faut pas oublier de considérer qu'il y a beaucoup plus en dessous, puis que si on s'occupait vraiment du reste, on n'aurait jamais besoin de ces pilules-là, en fait.
Oui, non, tout à fait. Vrai, tu sais, j'aime ton image, de manger, tu sais, s'imaginer un beau repas santé devant nous, et savoir qu'on se fait du bien en plus, tu sais, c'est...
Exactement.
Ça nous donne du pouvoir comme individu.
Oui, exactement, tout à fait. Ouais. Alors voilà, donc moi, je pense que ça serait juste du positif qu'on puisse développer un petit peu nos méthodes thérapeutiques dans le système médical pour opter vers une approche qui est plus intégrative, comme ce que la médecine fonctionnelle permet de faire, vraiment.
Hey, merci beaucoup, Anne-Isabelle Dion. Et puis, bravo pour tout ce côté novateur et d'amener ça au Québec. On en a besoin.
Ça me fait plaisir. C'est un beau challenge, mais j'adore ça.
Merci.
Merci à toi.
Évidemment, je vais donner toutes les coordonnées du Centre Axis, comment vous rejoindre.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!